France Info.
Et le club des correspondants s'arrête aux États-Unis ce soir, Sébastien Paour, parce que l'État de Washington vient de voter une loi qui protège les stripteaseuses.
Oui, la sénatrice démocrate qui portait le projet se félicite dans un communiqué. Elle était aux côtés de l'organisation de défense Strippers Are Workers. Les stripteaseuses sont des travailleuses depuis 6 ans. Elle écrit « Les stripteaseuses sont des travailleuses et elles devraient bénéficier des mêmes droits et protections que toute autre main-d'œuvre ». Le texte est donc promulgué depuis lundi. Il concerne 11 établissements dans cet état du Nord-Ouest américain. Et c'est une vraie avancée pour une profession qui n'est pas tellement réglementée. Que dit cette loi ? Elle oblige que les employés des établissements soient formés à la prévention du harcèlement sexuel, à la gestion des conflits et aux premiers secours. Elle impose également la présence d'agents de sécurité dans les clubs, des codes dans les vestiaires et des boutons d'alerte aussi dans les endroits où les travailleuses peuvent se retrouver seules avec des clients. Le texte prévoit enfin de plafonner les frais que les stripteaseuses, qui sont souvent traitées comme des auto-entrepreneuses, doivent payer pour l'utilisation du club. Ils sont plafonnés, ces frais, à $150 ou 30% du revenu d'une danseuse par nuit, sachant qu'on retient le montant le moins élevé.
Alors, comment finance-t-on tout cela et qu'en est-il dans les autres États aux États-Unis ?
Alors, pour financer ce nouveau cadre, l'État de Washington va autoriser les clubs à vendre de l'alcool, ça leur était interdit jusqu'ici. Et sur ce qui se fait ailleurs, c'est seulement en fait le deuxième État américain à adopter une loi qui protège les travailleurs du divertissement pour adultes. Seul l'Illinois l'avait fait avant, c'était en 2019. Mais il y a un mouvement global ici pour faire reconnaître les droits des stripteaseuses, avec 2 exemples rien que l'an dernier, les travailleuses d'un bar de Los Angeles et celles d'un établissement de Portland dans l'Oregon ont obtenu le droit de se syndiquer.
Sébastien Paour, correspondant de France Info aux États-Unis. Une importante victoire donc remportée dans l'État de Washington pour les stripteaseuses. Mais la lutte syndicale a lieu aussi à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Les stripteaseuses ont manifesté le mois dernier sous les fenêtres du Parlement à Wellington et remis une pétition aux députés. Grégory Pless, que réclament ces femmes ?
Eh bien, en résumé, elles veulent rééquilibrer en leur faveur le rapport de force avec leurs employeurs, à savoir les propriétaires de clubs de striptease. Pour ce faire, elles veulent, contrairement à leurs collègues américaines, conserver leur statut de travailleuse indépendante, mais tout en ayant la possibilité de négocier collectivement par le biais, par exemple, d'un syndicat. Parallèlement, elles demandent également aux législateurs d'interdire ou à tout le moins de limiter certaines pratiques imposées par les propriétaires de clubs qu'elles considèrent comme abusives. Par exemple, elles souhaitent limiter à 20% le montant des pourboires qu'elles doivent leur reverser et à 35% la commission qu'ils prélèvent sur les revenus qu'elles génèrent, alors qu'actuellement ces derniers récupèrent en moyenne 50%. Elles voudraient également interdire au club la possibilité de leur infliger des amendes, souvent très lourdes et pour des motifs parfois discutables, comme par exemple ne pas se présenter au travail, même quand c'est pour une raison valable, par exemple un arrêt maladie. Alors dans leur combat, elles ont reçu le soutien de quelques députés d'opposition. En revanche, la ministre du Travail les a, elle, invitées, en cas de problème, à se tourner vers l'équivalent néo-zélandais des prud'hommes.
Alors ce combat, les stripteaseuses néo-zélandaises ne le mènent pas seulement pour défendre leur profession, mais aussi pour défendre les droits de tous les auto-entrepreneurs du pays, quel que soit leur secteur d'activité. Et cette protection, elle pourrait venir d'une loi déjà en vigueur qu'on appelle la loi du Hobbit. De quoi s'agit-il ?
Alors cette loi du Hobbit, elle date de 2010, au moment où le tournage du film du même nom était sur le point de commencer. Mais face aux revendications des intermittents du spectacle sur leurs conditions de travail, la Warner, qui produisait le film, a tout simplement menacé de remballer ses caméras et d'aller tourner son film ailleurs. Un ultimatum qui a poussé le gouvernement d'alors à modifier en urgence le code du travail pour préciser que les intermittents du spectacle n'étaient pas des employés, mais des auto-entrepreneurs et qu'à ce titre, ils n'avaient droit ni de mener des négociations collectives, ni à certains avantages comme par exemple les congés payés ou les arrêts maladie. Alors les fans de la saga diront que c'est plutôt la loi de Sauron que la loi du Hobbit, mais cette injustice flagrante, elle a finalement été corrigée il y a 5 ans. En effet, en 2019, cette loi du Hobbit a été modifiée pour préciser que malgré leur statut d'auto-entrepreneur, les intermittents pouvaient négocier leurs conditions de travail collectivement. C'est un privilège dont ils sont actuellement les seuls à bénéficier et que donc les stripteaseuses de Nouvelle-Zélande voudraient non seulement voir appliquer à leur profession, mais aussi à tous les autres travailleurs indépendants.
Grégory Pless pour le Club des correspondants.